Oui, bonjour, c'est Laurent, cheminot en Corrèze, conducteur de train et syndicaliste à mes heures. Ben voilà, je m'insurge contre M. Sarkozy qui, ben, ni plus ni moins, double son salaire. Mais quelle honte! C'est vraiment honteux. Par contre, les cheminots, quand on enlève 30% de leur pension de retraite, ça c'est tout à fait logique. Puis les cheminots, c'est qu'un petit début. Après, on va s'attaquer à toute la population. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens n'en sont pas conscients. Voilà. Eh bien, gardons le moral et puis vive la grève.
Bonjour. Je voudrais vous donner une information. Vous dire pourquoi il faut doubler le RMI du citoyen Sarkozy. Eh bien, la pension alimentaire pour Cécilia, voyons. Il est ruiné, le pauvre gars.
Bonjour et bravo pour votre excellente émission d'hier. Ça ne passera jamais aux 20h. Et pour cause. Enfin, moi, je voulais revenir sur le mot franchise et vous dire, enfin, pour moi, franchise, c'est plutôt une exonération. Et d'ailleurs, on se rappelle tous de la franchise postale dont on bénéficiait quand on envoyait nos enveloppes à la Sécurité sociale. C'était déjà à l'époque, enfin, on nous a fait coller un timbre. Un timbre, c'est à peu près 50 centimes. Hein. On revient au problème d'aujourd'hui. Et donc, la franchise postale a été complètement supprimée. Et surtout, l'idée s'est installée que le service public devenait les services publics. Donc on a retiré, grâce à ce petit timbre, on a retiré l'idée qu'on était un seul service, enfin qu'il y avait un seul service public. Voilà. Et donc le mot franchise, c'est aussi un terme d'assurance, puisque dans les assurances, on parle de franchise, et c'est la part qui revient, à la personne qui est responsable d'un sinistre. Donc voilà, ça c'est aussi le mot franchise. Et d'ailleurs, Sarkozy, à ce niveau-là, il se conduit un peu comme un VRP dans le privé, d'une assurance, donc il nous vend une assurance privée, tout simplement. C'est clair. Et le petit mot franchise permet de comprendre tout ça, si on l'analyse. Alors là, faudrait demander à l'arrêt qui complète ce discours, voilà. Et voilà. Enfin, encore bravo pour votre émission et merci. Voilà. C'était Daniel Dallès. Au revoir.
Oui, bonjour. C'est une réaction à propos de l'émission. Nous ne sommes pas coupables d'être malades, c'est-à-dire sur les franchises et le financement de la sécurité sociale. Parce qu'effectivement, le problème, c'est pas le déficit, mais le financement. C'est-à-dire que les recettes n'arrivent pas à la sécurité sociale. Alors, mis à part effectivement les stock-options qui permettraient de, s'il y avait une cotisation d'assurance maladie sur les stock-options, cela effectivement rapporterait 3 milliards d'euros. Ça, c'est effectivement, ça sort de la Cour des comptes de Philippe Séguin. Moi, j'ai les échos là, sous les yeux, là aussi, c'est assez intéressant. Si on prend que les participations, les plans d'épargne entreprise, qui ont augmenté d'ailleurs en 4 ans ou 5 ans de 9%, s'il y avait des cotisations sociales sur ces participations et ces plans d'épargne, ça permettrait de faire rentrer dans les caisses de la sécurité sociale entre 8,3 milliards d'euros. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Hein. Aussi, autre chose, les dispositifs de protection sociale en entreprise, c'est-à-dire retraite supplémentaire, prévoyance, ou les compléments de salaire, c'est du titre, du style titre restaurant, frais de transport, chèque vacances. Bah, s'il y avait des cotisations sur toutes ces choses, cela permettrait de récolter pour la sécurité sociale entre 3,2 milliards et 3,9 milliards d'euros. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Séguin, la Cour des comptes, et toujours de trouver dans les échos. C'est effectivement intéressant. Moi, je me rappelle d'un article il y a quelques mois dans le Figaro, qui est un journal gauchiste, comme tout le monde le sait, que l'aide aux entreprises se montait sur une année à 60 milliards d'euros. Ah oui, ça laisse un peu sans voix. 60 milliards d'euros, on peut en faire des choses avec l'aide pour la sécu, pour la santé. Le problème, effectivement, c'est pas qu'il y a un déficit. D'ailleurs, ce terme déficit, c'est un problème de gestion d'entreprise privée. Il n'y a pas de déficit.
Bonjour Daniel, c'est André de Caen et j'entends que les stewards et les hôtesses font encore grève. Je suis vraiment content et je les remercie beaucoup car maintenant, eh bien, un peu moins d'avions dans le ciel, ça fera pas de mal, ça sera un peu plus que 5 minutes d'électricité éteinte par tout le monde. Moins d'hôtesses, moins de stewards, moins d'avions, donc moins de pollution. Merci, continuez.
Michel du Tarn-et-Garonne, j'ai à la suite de l'émission de vendredi qui m'a naturellement enchantée, comme beaucoup d'auditeurs, repris mes comptes de sécurité sociale depuis un an. Ma mère a 100 ans, j'ai 78 ans, et comme ma mère est prise en charge à 100%, elle coûte très peu de choses à sa mutuelle, mais en outre, avec la CSG et toutes les taxes et la contribution sociale qu'elle verse régulièrement sur sa retraite, elle est encore bénéfique. Enfin, elle donne encore de l'argent pour d'autres qui sont plus malades qu'elle. Il en est de même pour moi. Bien entendu, il n'est pas question de supprimer les mutuelles, mais j'ai été absolument contente de constater ça. Et bien évidemment, le trou de la sécurité sociale ne nous est pas imputable. Je m'en réjouis et je félicite toute l'équipe. Et je suis désolée qu'il s'en aille parce que j'aurais bien espéré que la France entière sache que les malades doivent regarder un peu ce qu'ils paient et ce qu'on leur rembourse. Au revoir.
Bonjour. J'ai été très ému ce matin par le journal de 7 heures et son début. La semaine démarre très fort sur France Inter. Le petit Martin était à l'aéroport de Nice et ne pouvait pas aller voir sa mémé. Hein, c'était une situation extrêmement tragique. Hein. Et on entend le petit Martin interviewé, n'est-ce pas, presque pleurnichant, quoi. C'était vraiment très émouvant, les salauds de grévistes. Hein. Et c'est vraiment tragique. Hein. Enfin, la semaine démarre fort sur France Inter. Hein. Salut.
Eh oui, salauds de grévistes. Hier, on a pris le vol pour la Havane par Air France, et on était donc à Roissy, et c'est vrai qu'il était très difficile de trouver des gens furieux et ou qui se prenaient qui se sentaient pris en otage par les personnels navigants d'Air France. Les gens étaient plutôt patients, c'était plutôt le sourire et la compréhension, et on a compris aussi, nous qui sommes quand même un peu des reporters, les difficultés que peuvent avoir ces jeunes reporters qui vont sur le terrain pour trouver des gens qui se prétendent pris en otage. Il y a un sujet là, il y a des gens qui poussent le bouchon très très loin. Prendre l'avion, c'est avoir l'occasion de lire Le Figaro, par exemple. Et dans Le Figaro, on nous dit que c'est fini, c'est plus 1995, c'est plus les grèves de 95. Et aujourd'hui, c'est fini du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que la victime n'est plus solidaire de son bourreau. Et qu'aujourd'hui, victime, c'est-à-dire les pris en otage des grévistes, de ces salauds de grévistes, ne se laissent plus faire. On voit que la décomplexion avance à grands pas. Sur le répondeur de la base, si j'y suis, dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, beaucoup, beaucoup de messages suite à l'émission d'hier sur les franchises médicales. Merci à tous, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux, pour ces messages. Nous, on vient d'arriver à la Havane. Voilà, on retrouve cette ville où on se réveille là à peine. Aujourd'hui, comme promis, le CNR, le Conseil National de la Résistance, le programme du CNR, avec un certain nombre de ceux qui l'ont fait, Stéphane Hessel, Maurice Criégel Valrimont, Jean-Pierre Vernant, Philippe de Chartres, c'est des éléments pris dans des émissions passées, pour faire comprendre ce que fut ce CNR et ce qu'il faut détruire aujourd'hui. Hein. On croit beaucoup de nos politiques, de nos éditorialistes, de nos penseurs, en pointe aujourd'hui, voilà ce qu'il faut détruire, c'est ce que vous allez entendre d'ici à 16h dans la base. J'y suis auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Madame la marquise, a-t-elle passé une bonne journée ? Oui, mon ami, mais je suis un peu soucieuse. Je viens d'apprendre qu'un jeune homme, un certain Guy Mocquet, je crois, avait été fusillé. Oui, madame, mais c'est l'histoire ancienne, ça. Aujourd'hui, nous sommes en 2007. Nous ne sommes plus à l'époque de ces sauvages qui envahissent un pays sans raison pour y martyriser son peuple. Non, rassurez-vous, tout va très bien, madame la marquise. Oh, merci, mon ami, mais pourtant, j'ai entendu dire que quelque part, là-bas en Iran, il se préparait une sorte de vilaine guerre pour du pétrole, à ce que l'on m'aurait dit.
Enfin, allons, madame la marquise, si vous commencez à croire les rumeurs, où allons-nous? Et rassurez-vous, si nous décidions de faire une guerre ou de nous y associer, ce serait en toute innocence de notre part. Nous ne saurions attaquer un pays qui ne soit pas coupable de quelque chose, hein, madame? Et puis, écoutez, si un tel événement se préparait, ça se saurait, on en reparlerait.
Excusez-moi d'insister, mon ami, mais il paraît que dans l'hypothèse d'un tel conflit, des millions d'innocents pourraient en souffrir ou y mourir.
Allons, allons, madame la marquise, mais vous vous faites du mal pour trois fois rien, là. Allez, prenez plutôt votre petit Prozac, là. Et puis tenez, je vais vous rassurer encore une fois, nous avons la chance en France, au gouvernement, d'avoir comme ministre un fort brave docteur pour s'occuper de toutes ces tracasseries. Si, si, madame, un vrai docteur qui a prêté le serment d'Hippocrate. Alors rassurez-vous. Et tenez, en prime, nous avons en plus la chance d'avoir en ce moment la visite d'un monsieur Rumsfeld qui nous vient d'Amérique. Un homme de bien, un authentique homme de paix, celui-ci. Alors rassurez-vous. Non, non, tout va très bien, madame la marquise. Soit, soit, mon ami, mais ne m'a-t-on pas dit que ces temps-ci, le peuple aurait tendance à se soulever? Oui, mais c'est déjà terminé, ça, madame. Vous savons bien que nous avons toujours de côté quelques menus liquidités pour fluidifier ce genre de contestation. Oh. Non, rassurez-vous, madame, tout va très, très bien. On veille sur vous. Et je dirais même plus, tenez, on vous surveille. Voilà, ben c'était Bernard de Macron.
Bonjour, ce vendredi 2 novembre, le Café Repère de Pujol, dans le Lot-et-Garonne, proposera de réfléchir et d'échanger sur le thème du métissage en présence de Joël Combre, de la revue Ancrage. Donc nous donnons rendez-vous au Délice du Puy à 20h30. Merci et à bientôt.
La radiodiffusion nationale vous parle.
On doit parler du programme du CNR parce que, un peu avant la libération, en mars 44, très exactement, le Conseil national de la résistance de l'époque a publié un programme. Il comportait ce qui s'appelait un programme d'action immédiate, mais aussi un programme pour la suite, c'est-à-dire pour la période qui suivrait la libération.
C'est ça, la libération, mais aussi prévoir l'après.
Exactement. Il fallait d'abord se libérer pour pouvoir faire autre chose. Et l'une des caractéristiques de cette période est que elle comportait la volonté de la libération, y compris la volonté de l'insurrection nationale, mais elle comportait aussi la prévision de l'organisation politique et sociale du pays. Et c'est en ça que le programme de l'époque est un programme qui a son actualité, parce que personne ne met en question la nécessité de remettre l'organisation sociale et l'organisation politique sur des rails qui ne sont pas parfaitement en état.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, le programme national de la résistance.
Pour la première fois, le Conseil national de la résistance parle au peuple de Paris.
C'est aujourd'hui le moment. Du combat.
Qui sont tombés, tous ceux qui ont fait le voyage sans retour ne sont point morts pour que reblanchissent les sépulcres. Toutes les citoyennes et tous les citoyens doivent répondre et comprendre que leur devoir n'est pas fini, que les puissances d'argent sont toujours là, que les influences étrangères guettent la France de toutes parts et qu'il nous faut travailler, encore travailler, durement et longtemps pour la libération de l'homme et d'abord pour libérer la démocratie de tout ce qui l'entrave. Ranimer les énergies, rappeler les devoirs aux consciences endormies, redire qu'après cette guerre effroyable et cette nuit profonde, le devoir commande de lutter encore. Le rassemblement que constitue l'union démocratique et socialiste de la résistance n'a pas d'autre sens. Lutter, encore lutter pour la liberté.
Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne, sans cesse intensifiée. Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération. Ce n'est, en effet, qu'en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation, que la France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité.
Aujourd'hui, sur la place de l'Étoile, le jour de la rentrée de la colonne Leclerc dans la ville, sur l'Arc de Triomphe, un immense drapeau tricolore. Des soldats passent dans leurs camions, dans des tractions. Des gars des FFI passent, assis sur les ailes, la mitraillette au poing. Une foule immense couvre toute la place. Tout à l'heure, on chantait la Marseillaise, ça va recommencer. Ça fuse tout le temps, toute la journée, tandis que les troupes de Leclerc passent dans leurs camions. Il y a là des Algériens, des Marocains. Il y a là des marins avec leurs bérets dans les tentes. Et il y a là beaucoup de Parisiens, des Bretons, des Lorrains, des gens de tous les coins de la France qui, dans l'armée Leclerc, en Angleterre, en Italie, se sont battus pour la cause de la liberté et qui aujourd'hui défilent dans Paris, capitale de la liberté.
Aussi, les représentants des organisations de la résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques groupés au sein du CNR, délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944, ont-ils décidé de s'unir sur le programme suivant, qui comporte à la fois un plan d'action immédiate contre l'oppresseur et les mesures destinées à instaurer, dès la libération du territoire, un ordre social plus juste.
C'est une Citroën qui vient de passer sur la place, qui a été prise par des patriotes et à la fenêtre de laquelle se trouve un type avec un mouchoir blanc, il a peur de se faire moucher. La voiture porte encore les numéros allemands et qui a passé à toute vitesse sous les acclamations de la foule. Voici maintenant qu'avancent des automitrailleuses françaises. Elles passent sur la place, les gens l'entourent, serrent les mains des gars qui sont dedans. Dans le véhicule, il y a des infirmières qui sont montées avec eux.
Alors voilà, des images sonores d'une époque. Tout dépend de la génération à laquelle vous appartenez. Pour beaucoup, ça rappelle des films. D'autres ont été les acteurs de cette époque. Après tout, il y a encore beaucoup de Françaises et de Français pour qui ce que nous venons d'entendre dit quelque chose, leur dit quelque chose au cœur. Au cœur, ça a été un moment terrible, formidable, exaltant, consternant, tout ce que vous voudrez, en tous les cas, d'excessif et de superlatif que ce moment de la libération de la France. Et il y a eu une résistance, comme vous le savez, faut-il le dire. Et dans cette résistance, pendant que des Français résistaient, que ce soit à Londres, que ce soit en France, même dans les maquis, la question se posait de après. Nous sommes en train de risquer nos vies, nous sommes en train de nous battre, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on fera après? Et la question s'est posée, évidemment, il y avait une grande diversité, comme vous le savez, parmi ces résistants. Il y avait des motifs bien différents de résister. On essayait de faire converger les résistances, mais les raisons de résister, les raisons d'agir dans la résistance étaient différentes. Eh bien, ça laissait la place pour cette résistance comme une responsabilité plus que politique. historique. Et ils ont eu le sens de ça. Alors, c'est venu de De Gaulle qui a chargé Jean Moulin d'élaborer un programme au sein de ce Conseil national de la Résistance. Et puis, d'autres ont repris ce projet. Il a fallu réunir les composantes très différentes, trouver ce qu'on avait en commun, plutôt que de trouver ce qui séparait. Et puis, on est arrivé à ce programme qui, aujourd'hui, vous avez entendu, semblerait tout à fait révolutionnaire. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gauchistes allumés utopistes qui proposent des choses pareilles? Alors, voilà ce que nous célébrons aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous voulons vous rappeler ce que, dans leur dernière réunion, ont décidé les représentants de toutes les organisations de résistance groupées au sein du Conseil national, en vue de l'action immédiate, former des comités dans les villes, villages et entreprises, et y enrôler les patriotes non encore organisés. Tous les comités ainsi constitués doivent être placés sous le contrôle du Conseil national de la Résistance en attendant le déclenchement des opérations. Ce sera notre destin d'avoir vécu en des temps historiques. L'an prochain, nous pourrons penser au Muguet. Aujourd'hui, il n'est de pensée que pour la guerre. Il n'est de chant que ceux de la résistance.
C'était le 1er mai 1944. Cette voix, c'était un des porte-parole du Conseil national de la Résistance, et qui dit bien la vibration politique de cette époque. Et ce Conseil national de la Résistance élaborait un programme où on voulait l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, le droit au travail, la participation des travailleurs à la direction de l'économie, une retraite pour les vieux travailleurs, l'accès à la culture, etc., qui étaient des choses neuves, issues des luttes, notamment celles du Front populaire, mais qui donnait toute sa place à l'État, au contrôle par l'État de la vie politique et de la vie sociale, mettant évidemment l'économie à sa place, c'est-à-dire la seconde, pour pas dire la troisième. Évidemment, c'est à partir de ce programme et de cet esprit, disons, de résistance, allaient s'élaborer les politiques d'après-guerre, et puis ces fameuses 30 glorieuses, et puis on allait passer au cours des années 70, depuis 20 ou 30 ans, 10 ans, 25 ans, un bond en arrière, un grand bond lent et en arrière. Alors, rencontre avec les acteurs de cette époque, avec Guy Vanctil.
Marc Ferraud,
oui.
On fait appel à vous justement pour parler du CNR. Cet élan qui était le CNR, parce qu'il faut le prendre comme ça en fait. Mmh. C'était une impulsion,
oui.
C'était une ligne directrice qui était justement cette tentative d'agréger un maximum de mouvements de résistance. Ça s'est passé fin 43, début 44.
C'est ça, fin 43, début 44. Et c'est en 44 qu'un début de programme s'est constitué, s'est bâti, si vous voulez, que De Gaulle et le CNR ont appliqué dès la libération, si je puis dire. Sauf que les partis politiques, ayant retrouvé une vie et une vivacité qu'ils avaient perdue, eh bien, petit à petit, disons que les anciennes structures ont repris le dessus et le CNR a disparu dans la trappe, quelques-uns de ces hommes participant au pouvoir. Alors, l'exemple type, si vous voulez, c'est qu'après la mort de Jean Moulin, que Georges Bidault, quand il a pris la tête du CNR, la succession, et qui était un démocrate chrétien, n'est-ce pas, Georges Bidault a pu apparaître, n'est-ce pas, comme celui qui incarnait une certaine résistance au jeu des partis. Et il a pendant longtemps cru qu'il pouvait jouer ce rôle d'opposant d'égal à égal avec De Gaulle. Mais en fait, quand De Gaulle a constitué son gouvernement et qu'il est devenu ministre, très vite, des Affaires étrangères, et Saillant, qui a pris la suite de Bidault à la tête du CNR, a disparu dans la trappe, et le CNR, en tant que tel, n'a plus joué de rôle. Ce sont les partis qui ont commencé à jouer, et à jouer contre De Gaulle, mais ça, c'est encore une autre histoire.
Voilà. Mais dans ce court moment, en fait, du Conseil national de la résistance et de son programme, qui avait réuni justement un très large spectre dans ceux qui s'étaient battus, plus ou moins, m'a-t-on dit, est-ce que c'est pas un de ces moments où l'histoire s'accélère, où ce qui se joue là, les cartes qui sont données là, vont celles qu'on va utiliser jusqu'aux 30 Glorieuses et encore jusqu'à aujourd'hui?
Oui, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il faudrait des grandes crises pour que des grands changements puissent s'opérer. Et ça, c'est quand même ce qui a marqué ce tournant de 44-45. Car si on a pu décréter les nationalisations, sans doute c'est parce que ça pouvait être depuis quelques décennies le programme d'un certain nombre de partis politiques et en gros d'un certain nombre de gens de gauche, mais aussi pour autant que De Gaulle pouvait juger que, messieurs, à Londres, autant que j'ai souvenir, vous les patrons, il n'y en avait pas du tout. Donc la suspicion légitime à l'endroit du patronat, du grand patronat, venait autant de Gaulle que de la tradition, disons, socialiste ou communiste ou de gauche. Et c'est ce moment particulier qui a permis les nationalisations, la sécurité sociale, etc.
Les Parisiens qui se sont si bien battus pour libérer leur vie.
Les Paris sont rendus.
Alors, je ne sais pas du tout s'il était là ce jour-là, Jean-Pierre Vernant, lors de la libération de Paris, mais il fut un acteur très engagé, plus qu'engagé, dans la résistance. Il avait 30 ans en 1944, et on va entendre un ancien terroriste. Et oui, il était engagé dans le corps franc de la libération. Il dirigeait à Toulouse des cours sur le des armes et même l'emploi des explosifs. Et oui, et bon, Jean-Pierre Vernant, c'est une très grande figure de la résistance, c'est un très grand historien, comme vous le savez, mais c'est aussi quelqu'un qui continue le combat, Jean-Pierre Vernant.
Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération.
Vous, Jean-Pierre Vernant, vous étiez en Haute-Garonne et vous étiez investi de responsabilité dans la résistance. Comment on pouvait gérer les deux priorités? Organiser la lutte contre l'occupant et la collaboration, et à la fois la préparation de l'après.
Alors, mars 44, en ce qui me concerne, étant donné les responsabilités que j'avais, je dirais volontiers que l'essentiel, c'était les tâches immédiates. On savait que le débarquement allait avoir lieu, il y avait ce qu'on appelle plan vert, bref, on raisonnait, moi j'étais à ce moment-là encore un jeune type, on raisonnait en fonction de ce qu'il fallait faire contre l'occupant.
Rappelez-nous vos responsabilités en mars 44.
En mars 44, je suis chef départemental pour la Haute-Garonne et pour Toulouse des forces françaises de l'intérieur. Donc, c'était essentiellement les tâches de la lutte clandestine militaire. Mais on ne pouvait pas ne pas penser à ce sur quoi débouchait notre action. C'est-à-dire, bon, c'est bien joli, les Allemands s'en vont, Vichy s'écroule, qu'est-ce qu'on fait? Et par conséquent, pour reprendre un peu ce que vient de dire Krieger-Valraymond, ce qui était... En ce qui me concerne, et en ce qui concerne, je crois, tous les types qui travaillaient avec moi, c'était l'idée que l'épreuve qu'on avait connue, le fait qu'au départ, un petit groupe, puis ensuite plus large, avait représenté la volonté de ne pas accepter la défaite, impliquait qu'il y avait une sorte d'unanimité dans les familles spirituelles, il y avait dans l'armée secrète et les FFI, toutes sortes de gens qui pensaient toutes sortes de choses diverses. Mais ce qui s'était forgé, c'était l'idée, d'abord, qu'il fallait chasser les Allemands, qu'il fallait chasser Vichy, et qu'il n'était pas pensable, inimaginable, nous étions naïfs, qu'après cela, après les épreuves, après l'effort, après le fait qu'on s'était tous frottés les uns avec les autres, que ceux qui étaient plus les laïcs ou athées avaient découvert chez les catholiques en dépit des divergences, qu'il y avait des choses communes, que des gens très conservateurs ou royalistes qui avaient tout de suite déclaré non aux Allemands, non aux nazis, retrouvaient des gens qui étaient des communistes ou des anciens communistes. Tout ça faisait que, à nos yeux, on ne pouvait pas imaginer une seconde que la France d'après serait la même que celle, non seulement de Vichy, ça va de soi, mais la même que celle de la Troisième République. Et donc, il fallait faire un programme pratique, de grande, une volonté politique qui corresponde à cette certitude que nous avions que, non pas le monde, mais la France allait changer, que l'Europe allait changer, qu'on entrait dans une espèce d'ère nouvelle. À la base, il y avait ça, l'idée que la France allait entièrement se renouveler dans sa façon de vivre la communauté française et que, ma foi, dès la libération, on a vu que les choses n'étaient pas aussi simples, mais que tout de même, à cette époque, était possible une série de grandes transformations économiques et sociales qui ont eu lieu, dont certaines, comme vous le disiez, sont encore heureusement debout, mais qu'on a bien le sentiment que contre ces murs qui ont été élevés à ce moment-là et qui traduisaient à la fois notre effort et notre unanimité, actuellement, les flots sont très puissants pour les faire tomber par terre, ce qu'il en reste.
Pourquoi des résistants avaient besoin de penser un après-guerre en termes de loi sociale et de loi économique ?
Ce n'était pas quand même des idées neuves. Le Front populaire avait existé avant, le radical socialisme aussi auparavant, et il y avait eu aussi une révolution en URSS, que je sache. L'idée de plan, de planification, de gestion de l'économie était quelque chose dont on avait parlé, et d'ailleurs dont on ne voulait pas dire trop qu'on s'inspirait de l'URSS, puisque c'était
Marc Ferro
rouge, n'est-ce pas ? Et pourtant, on s'en inspirait quelque peu, avec des freins, bien sûr. Donc, l'expérience soviétique servait quand même de reflet, n'est-ce pas ? De butoir à ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, faire si on était communiste, ne pas faire si on n'était pas communiste. En gros, Beveridge, en Angleterre, n'est-ce pas, quand il institue la sécurité sociale, le welfare state, ce qu'on appelle aujourd'hui l'État-providence, n'est-ce pas, eh bien, en fait, il avait lu ce qu'avaient écrit les bolcheviks, hein, et puis pas seulement les bolcheviks. Donc, gérer l'État, prévoir la sécurité pour la société, c'était des idées qui étaient dans l'air depuis... disons qu'une classe ouvrière était apparue en 1848.
Prenons par exemple l'intitulé. Le CNR donne pour objectif l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de l'économie. Oui. Ça, c'est un des points de démarrage. C'est un peu la ligne rouge, quoi.
Bah, c'est pas nouveau.
Non. Non, mais est-ce que c'était pas nouveau, justement, que l'ensemble d'un peu de l'éventail politique français se mette d'accord sur ce principe-là?
Ah oui, ça, c'était tout à fait nouveau. Et ça tenait justement à cette conjonction que l'opinion pouvait juger au lendemain de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, et même pendant l'occupation, que, disons, les classes dirigeantes, entre guillemets, avaient trahi. Fermez les guillemets. Ce qui était vrai et faux.
Bon, il y avait Renault, c'est sûr.
Oui, il y avait Renault, il y avait Berliet. La collaboration économique existait, même si, existait plus que ça, même si certains patrons voulaient sauvegarder les uns leur matériel, les autres leurs travailleurs. Je m'excuse de ça, mais c'est quand même comme ça que ça s'est présenté honteusement, n'est-ce pas ?
Alors, sur la collaboration économique, vous disiez, ça, c'était une des raisons qui avait rendu possible l'accord sur ce programme social qui était de gauche.
Oui, parce que de Gaulle, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit, a quand même dit très fort, messieurs les patrons, à Londres, on ne vous a jamais vu. Donc, il était, au fond, à sa façon, catholique social, de Gaulle, et pas que lui. Donc, il y avait des mesures de nationalisation.
L'électricité, l'assurance, la banque.
Pas toutes de la même façon. Les unes, c'était des sanctions, comme vous avez dit, Renault, par exemple, ou Berlier. Et les autres, c'était l'intérêt de la nation, c'est-à-dire que ce qui est nécessaire à la souveraineté nationale, les transports, l'électricité, les canaux, le charbon, enfin tout ce qui est la base de l'économie, de la société, n'est-ce pas ?
Les ressources
doivent appartenir à la nation et pas à des intérêts privés. Donc ça, c'est une idée qui, d'un seul coup, a pu, en quelque sorte, se transformer en réalité. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est une période très rare, une année ou deux, où il y a eu une sorte d'unanimité nationale, n'est-ce pas, sur ce type de problème.
Ces comités devront, en accord avec les organisations syndicales résistantes, combattre pour la vie et la santé des Français pour une lutte quotidienne et incessante, par des pétitions, des manifestations et des grèves, afin d'obtenir l'augmentation des salaires et traitements bloqués par Vichy et les Allemands, et des rations alimentaires et attributions de produits de première qualité, réduites par la réglementation de Vichy et les réquisitions de l'ennemi, de façon à rendre à la population un minimum de vital en matière d'alimentation, de chauffage et d'habillement.
Vraiment une atmosphère qui défie la description. On ne sait pas quoi dire. Il n'y a pas de manifestation organisée, mais c'est une manifestation de joie et de bonheur profond, profond. Deux avions alliés. Tous les visages se tournent vers le ciel et les gens applaudissent. Ils sont heureux, heureux comme ils ne l'ont jamais été.
Jean-Pierre Vernon disait, à l'époque, on était naïf.
Oui, sur ce plan, parce qu'on était naïf. Je veux dire qu'on était à la fois très réaliste et très idéaliste. Les choses ne sont pas contradictoires.
Voilà, c'est comme quoi c'est pas incompatible.
Non, pas du tout, on n'était pas incompatible.
Vous parliez d'une rupture par rapport à l'héritage politique de l'avant-guerre. Mais en quelle mesure il y a eu un renouveau idéologique, par exemple Stéphane Hessel?
Alors, ce qui est certain, c'est ce que Jean-Pierre vient de dire, c'est que nous, alors qui est-ce nous ? Nous, d'une part, nous parlons de ceux qui, en France, préparaient avec angoisse et un désir d'aller vite la libération et ce qui se passerait après la libération. C'est eux qui ont forgé ensemble ce qu'a été ce programme du CNR dont nous parlons aujourd'hui. Mais nous, c'était aussi naturellement les Français de Londres, ceux qui étaient, comme je l'étais moi à l'époque, en contact avec ces mouvements de résistance. Et pour cela, je crois que pour tout cela, il y avait, comme on l'a dit, un rejet radical de Vichy et un soupçon sur la façon dont la Troisième République avait manqué de gagner la guerre et en tout cas de s'y préparer. Donc, il fallait chercher un peu en deçà ou au-delà. En deçà. N'oublions pas ce qu'a été le Front populaire. Et le Front populaire a été un moment où la gauche unie, communiste, socialiste, radicaux, avait essayé de faire progresser la France dans le domaine social. On avait été bloqué, on avait été empêché, ça n'avait pas été aussi loin que cette génération à laquelle j'appartiens l'aurait souhaité, mais il y avait quand même des conquêtes, et notamment des conquêtes de législation sociale qu'il fallait renouveler, reprendre et remettre à jour. Il fallait donc trouver, et ça a été le rôle très important, je ne veux pas parler trop longtemps, je me laisse toujours aller, mais je vais finir rapidement, rôle très important de ceux qui ont préparé le programme du CNR, c'est de donner voix à tous ceux qui pensaient en avant. S'appuyer sur l'ensemble du Conseil national où il y avait les Louis Marin, les royalistes, etc., mais c'est pas sur eux que l'on comptait pour faire le mouvement en avant. On comptait sur les mouvements de résistance et on comptait sur les partis qui avaient pris fermement position dans l'esprit du Front populaire et contre Vichy.
Et maintenant, ricanez, messieurs les membres de la résistance, messieurs les chefs de bande, messieurs les communistes, ricanez, mais vite, car le temps vous est mesuré. La France va respirer. La France des braves gens, la France qui a pu se tromper, mais qui ne sait ni mentir, ni trahir. La France des pères de famille et des gosses imprudents, mais généreux, celle-là choisira entre mes textes et vos dénégations, entre le maréchal et De Gaulle, entre le gouvernement français et les gardes rouges.
Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.
Alors contre les voix du soutien à la collaboration, celle de Philippe Henriot, par exemple, sur Radio Paris, eh bien, il y avait ces hommes qui essayaient d'imaginer des lendemains, un peu des lendemains qui chantent, en fait. C'était bel et bien ça, mais c'était pas limité. Dès qu'on emploie cette formule, on pense à la gauche, on pense au Parti communiste, etc. Eh bien non, on l'a vu avec ce que Marc Ferro appelle les catholiques sociaux. Il y avait... On a réussi à essayer un projet, un souffle, habité par un souffle politique, et ça a abouti. Ça, par le souterrain des choses, ça aboutit. Quel lien, quelle comparaison on peut faire entre cette époque historique et aujourd'hui ? Marc Ferro.
Alors, on a vu la planification pour fixer la direction de l'économie au nom de l'intérêt général, les nationalisations. Il y avait aussi la sécurité sociale.
Ah oui.
Il y avait aussi le droit du travail avec les comités d'entreprise, etc.
Voilà, la sécurité sociale, c'est quand même important. Et moi, je suis toujours surpris quand je lis les ouvrages sur l'histoire de mon pays, n'est-ce pas ? Qu'on ne donne jamais le nom de Pierre Larocque. Car enfin, c'est lui le père de la sécurité sociale.
On devrait faire des monuments à sa mémoire.
C'est pas. Et alors, celui-là, Pierre Larocque, qui a vraiment instruit la création de la sécurité sociale, en s'inspirant en partie de Beveridge, mais tout le travail, c'est lui qui l'a fait, eh bien, il est inconnu. Regardez les index des livres, il n'est jamais cité.
Je ne connaissais pas.
C'est quand même assez extraordinaire. Bon. Et cet homme-là a gardé jusqu'à sa mort une modestie incroyable. C'est un héros de la nation.
Puisqu'aujourd'hui encore, on bénéficie de ces dispositions qui ont été prises dans ces 1 ou 2 ans, vous dites, où voilà. L'histoire s'est précipitée.
Oui, ce que on sait, je sais parce que je l'ai rencontré, et je l'ai interviewé avant sa mort il y a 7-8 ans, c'est qu'à l'époque, n'est-ce pas, la sécurité sociale s'appuyait essentiellement sur les salaires, comme vous savez. Elle devait sauvegarder contre les maladies, etc., etc. Mais pas contre le chômage. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Et non seulement à l'époque, il n'y avait pas de chômage, mais on pensait, et on avait raison, qu'avec la reconstruction, avec le pays à revisiter et à rénover, on n'imaginait pas un instant qu'il y aurait une crise qui va avoir lieu 10, 15, 20 ans plus tard, n'est-ce pas ? Et que le chômage va devenir un des grands problèmes de la société française. Ce chômage qu'on avait connu en 1932, 1933, n'est-ce pas ?
Les conséquences de 29, de la crise de 29.
Oui, oui. Rappelez-vous les défilés du travail ou du pain. Et déjà, là, en 1948, le droit au travail. Donc, le droit au travail existait, mais on pensait que maintenant, c'était résolu. Avec la croissance, le développement, la reconstruction... Autrement dit, dans le cadre de la sécurité sociale, on a pensé à mettre fin à la charité, si je puis dire, à l'assistance.
Aux bonnes œuvres.
Aux bonnes œuvres, mais on n'a pas imaginé que le chômage allait frapper.
En mars 1944, j'étais chef national de mon réseau, en charge de l'action militaire en ex-zone nord.
Philippe de Chartres.
Je venais de m'évader de Fresnes et je traversais à pied les Pyrénées pour rejoindre l'Assemblée consultative provisoire où j'avais été élu à Alger. Ça doit être à peu près ça.
À quelques jours près.
Oui, à quelques jours près. Ah ben oui, c'était très, très rapide. Bon... la pression de l'histoire était telle qu'il a fallu quand même quelque chose qui soit commun, construire intellectuellement, humainement, politiquement, un monde habitable pour tous. Et c'est là où chacun a fait l'effort, n'est-ce pas, d'essayer de voir ce qui pouvait être mis en commun, malgré les oppositions, malgré les difficultés. C'était le Conseil national de la résistance. Mais... ça n'a pu avoir lieu que parce que on était dans une situation historique tout à fait exceptionnelle.
Voilà.
Une situation de crise.
Mais comment ça se fait que c'est au moment où on a le moins de moyens possibles qu'on décide de la sécurité sociale, qu'on décide de la retraite,
C'est parce que quand on aborde la politique, on pense toujours que ce qui est essentiel, c'est l'économie. Bon. Et bien sûr,
le primat de l'économie.
Oui, le primat de l'économie. Bien sûr, il n'y a pas de pays riche, il n'y a pas d'Europe riche sans une économie prospère. Mais la seule finalité du progrès économique, c'est le progrès social. Le progrès économique sans le progrès social n'aboutit qu'à la catastrophe.
Venez d'écouter une déclaration de M. Georges Bidault, président du Conseil national de la Résistance.
Français, Paris s'est libéré et s'est libéré lui-même contre un ennemi en retraite et déjà en déroute, mais encore puissamment armé. La lutte continue dans le quartier populaire dont je vous parle. Vous pouvez entendre le canon ennemi et le mousqueton français qui alternent presque sans interruption. Mais la confiance et l'enthousiasme ne sont pas du côté des gros calibres. 50 mois de honte et d'oppression sont aujourd'hui effacés et vengés. La France se retrouve plus grande au travers de l'épreuve. Elle connaît aujourd'hui ceux de ses fils sur lesquels elle peut compter. Elle connaît aussi le pouvoir de l'union et du courage. C'est par l'appel à l'union et au courage que le Conseil national de la résistance, au nom duquel j'ai l'honneur et la fierté de m'adresser par l'intermédiaire d'une radio affranchie à la France et au monde. Le Conseil national de la résistance a pu, dans la nuit de l'oppression, dresser un peuple pour le combat, dans le moment même où des vieillards chamarrés et d'abominables bandits s'efforçaient de prostituer toute sa gloire. La France est aujourd'hui, par le courage des combattants, à nouveau un pays d'hommes libres. Un pays libre. Grâce au général de Gaulle, qui le premier donna le signal du refus de capituler, grâce aux combattants de la résistance, grâce à nos martyrs sans nombre, morts silencieux sous les tortures, la liberté des citoyens, l'indépendance de la patrie, la fierté d'un grand peuple sont pour nous des patrimoines reconquis. C'est aujourd'hui le moment du combat.
Un document extraordinaire que ce discours de Georges Bidault le 24 août 1944, alors qu'il est cerné par des vrais coups de feu. C'est pas un montage, c'est pas une pièce radiophonique dramatique, c'est des vrais coups de feu. On l'entend dans les hésitations de cette voix qui se dresse contre les vieillards chamarrés. Il aura un sort, un trajet politique qui correspond pas forcément toujours à ce qu'il est en train de dire, ce Georges Bidault. Mais enfin voilà, les voix de cette époque, les voix de ce moment historique exaltant qui a été le Conseil national de la Résistance et de ce programme national de la Résistance. On retrouve Jean-Pierre Vernant.
Jean-Pierre Vernant.
Oui, moi, si je réfléchis à ce qu'a représenté ce projet par rapport à aujourd'hui, il me semble que ce projet traduit bien le modèle dans des situations où il existe des nations démocratiques et des États où l'État avait la possibilité de redistribuer les richesses de la nation en s'appuyant sur le fait que les classes laborieuses, les ouvriers, par l'intermédiaire des syndicats et de leurs partis politiques, avaient une place suffisante pour, dans les négociations et les rapports de force, obtenir quoi ? Obtenir ce qu'on a vu, ce que chacun de nous a vu, nous, en 36. Arriver, la baisse des 40 heures, les congés payés, et ensuite, oui, tout le système de sécurité sociale, tout ce qui a été bâti, et qui fait que ça a été possible. Et je crois que, dans le cas qui est celui que nous célébrons ici, c'est un modèle, parce que la résistance avait fait en sorte que, précisément, ce qu'on appelle le peuple, les masses, les gens qui produisent, avait un pouvoir de négociation et de décision beaucoup plus grand. La question qui se pose aujourd'hui, qui se pose depuis 20 ans, et dont on nous rabat les oreilles, c'est qu'on nous dit que ça, c'est terminé. Que la planification, elle n'est plus possible. Peut-être est-ce vrai, j'en sais rien, je ne suis pas économiste. Mais que, de toute façon, avec les nouvelles formes de communication, avec la mondialisation, les États nationaux n'ont plus en main les pouvoirs de jouer ce rôle d'arbitrage et de faire que de temps en temps, les masses populaires bénéficient d'un certain nombre de mesures qui modifient leur mode de vie. Et ce mode de vie, pour la classe ouvrière française, elle a été très modifiée. Et alors, ce qui se crée, c'est que la charrette, que plus personne ne peut véritablement maîtriser en dehors des intérêts privés, la liberté de tout, le commerce et tout ça, le libéralisme, on s'aperçoit que en dehors de ce qui est la classe ouvrière française, non pas traditionnelle, parce que celle-là, elle n'existe plus, il y a des masses de gens qui ont été jetés et qui sont hors société complètement, et où par conséquent tout système ne peut même pas leur profiter. Alors le problème, c'est de voir si aujourd'hui il n'est pas possible, compte tenu des modifications qui se sont produites dans la vie économique et dans le jeu des forces politiques et sociales, d'avoir un programme qui est non pas, qui part d'utopie, mais l'utopie, l'avenir, c'est parce qu'il est marqué du saut de l'utopie, c'est la même chose. Mais en même temps, qui, comme on l'a fait au moment de la résistance, ouvre une perspective qui apparaît en même temps comme possible, ici et là, en France, et qui en même temps ne soit pas cet abandon complet, y compris cette destruction de ce qui avait été fait au moment de la libération et dans les années qui ont suivi. C'est ça le problème.
Du reportage de Guy Vanctil, le Conseil national de la résistance, à travers les témoignages de Stéphane Hessel, Philippe de Chartres, Marc Ferraud et de la bouche aussi de deux grandes figures de la résistance disparues depuis, Jean-Pierre Vernant et Maurice Kriegel Valrimont. Et puis voilà, nous vous signalons également ce soir, c'est l'équipe de Daniel Mermet qui vous le signale, une soirée théma sur Arte à partir de 20h40 intitulée « Ne passez pas par la case prison ». Au programme, deux documentaires, prison à domicile, d'abord sur le bracelet électronique, peut-il, oui ou non, constituer une alternative à l'incarcération. Deuxième documentaire à partir de 21h40, délit mineur. Toutes les informations sont de toute façon disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique, aujourd'hui, il y avait Patrick Henry et Loïc Frapsos, réalisation Yann Chouquet, bien sûr, et Coy Nguyen. Assistante de l'émission, c'est Charlotte Perry. Charlotte qui se fera un plaisir de recueillir tous vos témoignages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.